Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers-Rares et aujourd'hui, j'interroge Céline et Alexandre. Céline et Alexandre ont créé l'atelier d'Inal, qui ennoble les jours et nuits pour les maisons de haute couture. Un couple d'artisans qui aiment traduire en or et en lumière les intuitions des directeurs artistiques. Leur technique et leur vision de la belle matière s'expriment aussi pour l'architecture d'intérieur, en panneaux muraux, en voilage, en tapis. Une trouvaille pour laquelle je remercie David Siber et une rencontre comme The Craft Project aime vous les faire partager. Bonjour Céline et Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Alors c'est mon deuxième podcast de couple, donc on recommence. Et je vais essayer de vous faire parler tous les deux de votre parcours créatif, de votre vie d'artisan d'art, sachant que vous êtes deux personnes, deux personnalités même, qui avaient décidé de construire votre vie ensemble autour des métiers d'art. Et je vais commencer par Céline, en vous demandant, Céline, comment la matière est arrivée dans votre vie? À quel moment?
Alors, elle est arrivée fort jeune, c'était quand je devais avoir 5 ans. Je me souviens que je m'amusais à faire des cadres, des petits tableaux de Poulbeau. Les Poulbeau, c'était les personnages parisiens, les petits jeunes qui étaient dans la rue à Montmartre, on trouvait. J'avais des petites images de Poulbeau que je trouvais vraiment adorables. Donc, je coupais du bois que je trouvais, je faisais des encadrements, je collais, je clouais et je mettais ça dans ma chambre. Donc ça, c'était, ouais, j'avais 5 ans.
Et c'était encouragé dans votre famille, cette créativité et cet attrait pour les métiers manuels?
Encourager, oui, on le sait faire.
On le sait faire.
C'était, bon, voilà, il y a les outils.
Bon, il y avait des outils déjà à la maison?
Oui. Enfin, il y avait toujours un marteau, des clous, une scie.
Et il y avait des artisans autour de vous?
Mon père était dans le bâtiment, il était ingénieur. C'est pas vraiment un artisan. Et puis ma mère cousait.
D'accord.
Donc, faisait notre petite ligne, faisait nos vêtements. Aux trois sœurs que nous étions, je la regardais aussi coudre. D'où après ma passion pour la couture et la mode.
Et vous avez une formation de styliste modéliste, c'est
oui,
ça?
Oui, j'ai une formation de styliste modéliste. Alors, je suis allée à l'école. J'ai commencé avec une formation d'un an dans l'école Forma Mode. Ensuite, j'ai fait 3 ans chez S-Mode. Et ensuite, j'ai fait l'école Saint-Roch.
D'accord.
Ouais. J'ai réalisé un stage et c'était principalement modélisme, et c'était modélisme donc haute couture, donc j'ai beaucoup appris là aussi, mais je faisais déjà mes vêtements, enfin c'est pareil, à 10 ans je cousais, je faisais mes vêtements aussi, enfin d'une façon un peu marginale, je m'allongeais par terre sur un tissu et je traçais mon corps, puis après j'habillais mes sœurs. Et je m'habillais moi-même, et puis après j'habillais Alexandre, et puis après j'habillais mes filles, et ensuite...
Voilà comment la couture est arrivée dans votre vie. Et vous, Alexandre, ouais, comment la matière est entrée dans votre vie?
Ah, mais moi je suis plutôt entrée dans la matière, puisque je suis née dedans. C'est un peu différent, donc moi je ne l'ai pas cherché, ça m'est tombé dessus. Je suis tombée dedans parce que ma mère était déjà tombée dedans, et parce que sa mère et sa tante étaient complètement dedans. Ma grand-mère et ma grand-tante étaient ce qu'on appelle des midinettes, donc ces femmes ouvrières de la couture qui passaient de maison en maison. Chaque saison, il y avait beaucoup de travail, et puis tout d'un coup, on les licenciait parce qu'il y avait un peu moins de travail, et elles en profitaient pour changer de maison en disant qu'elles étaient un grade au-dessus. Elles étaient, par exemple, on va dire, première main, elles entraient dans une autre maison en tant que première main qualifiée, et hop, elles montaient en grade, et aussi la paye qui montait. Ma grand-tante était une véritable artiste, puisque, ayant commencé à travailler à 11 ans, hein, je parle du début du XXe siècle, hein, elle a fini sa carrière, ou plutôt, elle est arrivée au sommet de sa carrière en tant que directrice technique dans la maison Yves Saint-Laurent. Elle était auparavant chez Dior et Saint-Laurent est allé la pêcher lorsque Dior l'a envoyée à New York. La caravelle qui l'a ramenée de New York, il y avait au pied de la passerelle Saint-Laurent et Pierre Berger qui lui disaient « Madame Ida, vous venez chez nous, on vient d'ouvrir la maison Saint-Laurent ».
Incroyable.
Et donc elle a une carrière foudroyante. Et sa petite sœur, ma grand-mère, la suivait partout. Elles allaient de maison en maison, parfois elles étaient ensemble dans les mêmes maisons. Et donc, elles avaient une vie de midinette à 100%. Ma mère naît au milieu de ces deux femmes et dit « Moi, je ne veux pas tirer l'aiguille, j'ai envie de peindre. » Donc, elle fait un passage aux Beaux-Arts. Elle rencontre des Russes. Et les Russes, qui étaient des réfugiés de la Révolution, des immigrés, avaient néanmoins ce petit savoir-faire que les Russes avaient eu grâce à la route nord de la soie, où ils avaient appris à travailler la soie, à la peindre et à faire les fameux foulards. Une mode très 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 cadencée, très très rapide. Les femmes changeaient de foulard plusieurs fois par saison. Et donc en fait, il y avait des mini-collections qui étaient tout le temps proposées aux femmes pour qu'elles changent de foulard.
En Russie ?
Non, en France.
En France à l'époque.
On voyait bien, et moi je m'en souviens encore tout petit, dans les années 60, on voyait bien qu'à un moment donné, eh bien, les femmes avaient tendance à porter des foulards à carreaux. Mmh. Et puis tout d'un coup, on voyait des grosses fleurs, puis tout d'un coup, on voyait des petites fleurs, puis tout d'un coup, on voyait des grandes taches. Les femmes se transmettaient la mode par se porter tout simple. Dans la rue, dans le métro, on voyait ce changement. On le retrouve dans le film Zazie dans le métro. Les quelques scènes qu'on voit dans le métro et qu'on voit de la rue, on voit bien ce foulard que les femmes portaient sur la tête. Il s'agissait de mise en couleur, des dessins, des appositions forte. Et donc ces étudiants du Beaux-Arts qui gagnent leur vie en peignant des foulards, ben, c'est ma mère a appris le métier de peindre les tissus avec eux. Et c'est là que ma mère finalement peint des tissus et se rapproche aussi de la couture. Et c'est là que quelques décennies plus tard, je fais la jonction en peignant les tissus pour la haute couture. C'est venu tout de suite, mais j'ai vécu dans cette ambiance.
Mais c'était comment d'être un garçon dans cette transmission de femme ?
Bon, vous savez, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre les garçons et les filles. Parfois, je m'oppose très très fort à certaines personnes, comme Céline, mon épouse. Je dis, il n'y a pas de différence. C'est pareil, il y a plus de différence entre deux filles qu'entre une fille et un garçon. C'est ma position et je peux peut-être revenir dessus un jour. Non, c'est pas gênant d'être un garçon dans un milieu soi-disant féminin. Non, il n'y a aucun problème.
Mais alors justement, quand vous étiez petit, vous commenciez à manipuler. C'est la soie qui vous a plu ou c'est la couleur ? En premier.
La couleur.
C'est la couleur.
Moi, c'est la couleur. Et les supports, aussi bien le papier que le tissu, étaient des supports, des matières à modifier, à peindre, à mettre en couleur, à tordre, à plier, comme tous les enfants. Mais j'avais cette chance-là d'avoir les tissus à portée de main. Et tous ces différents tissus, depuis les magnifiques velours, parce que ma grand-mère et ma tante avaient évidemment ce qu'on appelle la gratte, les lambeaux de tissus qui restent une fois qu'on a coupé la robe. Donc il y avait des tissus magnifiques, des taffetas mordorés, changeants, des choses extraordinaires. Donc j'avais la possibilité de puiser, on va dire entre guillemets, dans une bibliothèque de pauvres petits bouts de tissus pour faire mes tentatives d'enfant.
Et ça vous a donné une culture aussi de la matière.
Oui, oui, oui. J'ai tout de suite vu que le mélange des couleurs était infini et qu'on pouvait explorer ça toujours, 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 de plus en plus loin, de plus en plus fort, et obtenir des émotions à travers les couleurs. Les couleurs, c'est des émotions.
Mais votre grand-mère et votre maman vous ont appris des choses ?
Bien sûr.
Elles vous ont transmis, elles ont été des maîtres pour vous ?
Pas au sens du maître traditionnel avec sa règle qui tape au bout des doigts, mais dans le sens où elles m'ont toujours dit « Mais fais attention, le tissu, regarde, il y a le biais dans le tissu. Et regarde le biais, ce que c'est. Et oui, tu tires dans le mauvais sens, ben ça s'étire, tandis que dans l'autre sens, tu peux pas le tendre. Et puis tu sais, ma mère avait des métiers à tisser. Regarde, regarde bien sur le métier à tisser. Regarde ces fils-là qui sont enroulés sur les tambours, là. C'est les fils de chaîne. Ils mesurent 25 ou 30 mètres. Et ça, le fil qui est sur la nafette, c'est le fil de tram. Regarde, c'est comme ça que se fait le tissu. Donc j'ai suivi toutes ces évolutions simplement par l'observation et l'attention que prêtent tous les parents, tous les ascendants à expliquer aux jeunes ce qu'on fait aussi dans l'atelier. Quand les gens arrivent, on leur explique un petit peu comment les choses sont faites. On essaie de leur donner les clés pour apprendre des manipulations, ne pas se tromper ou, si on se trompe, réussir à comprendre pourquoi on n'a pas réussi.
Mais alors l'atelier d'Inal qui fait de l'ennoblissement textile, il a été créé par qui ? Par votre grand-mère ?
Par ma mère. Elle était une dessinatrice exceptionnelle et une très bonne coloriste. Et c'est elle qui a lancé cet atelier, qui a regroupé tous les produits et puis qui a demandé à mon père, qui avait un tout petit peu de connaissances, je ne vais pas dire chimiste, mais un petit peu de connaissances théoriques, d'améliorer certains produits.
Donc ils travaillaient en couple déjà ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Alors, background. C'est quoi votre métier, Céline et Alexandre ?
Ah, le métier d'ennoblisseur. Eh bien, le métier d'ennoblisseur, c'est pour décrire toutes les opérations qui vont être faites sur une étoffe, soit un tissu, soit un tricot, entre le moment où cette étoffe va tomber du métier à tisser ou à tricoter, et le moment où cette même étoffe va passer en assemblage, soit par couture à la main, soit par couture à la machine, pour former ou un vêtement, ou un rideau, ou un revêtement de fauteuil. Toutes les opérations, toutes les interventions qui sont faites sur cette étoffe, que ce soit le blanchiment, la teinture, l'impression, la broderie, le plissage, toutes les interventions sont des ennoblissements, dans la mesure où d'une matière donnée, on apporte une modification, un ennoblissement. Alors maintenant, quand on dit ennoblissement, on va restreindre ce mot aux métiers qui vont pratiquer la couleur ou la non-couleur, c'est-à-dire le blanchiment, la teinture et l'impression. On va dire que ça, c'est les ennoblisseurs. Mais les brodeurs le sont aussi. Quand on lit la liste des métiers d'art, on voit ennoblisseur et on voit moirage. Et c'est vrai que le moirage est une technique qui fait passer deux épaisseurs de la même étoffe entre deux cylindres chauffés et qui font que à la sortie de ce laminoir, les mailles du tissu sont légèrement décalées et offrent cet léger effet de moirage. Et c'est très étonnant parce que c'est le seul métier d'ennoblisseur qui soit nommément cité dans la liste des métiers d'art. Alors que d'une certaine manière, c'est peut-être le plus rare de tous les ennoblissements dans la mesure où il n'y a que 4 ou 5 maisons dans le monde qui sont capables de faire du moirage.
Dont vous ?
Nous, non, nous n'avons pas de calandre. Parce que,
mais alors, bon, c'est pas grave, on a quand même décrit un autre métier.
Ah, non, non, nous c'est très particulier parce que nous sommes des ennoblisseurs sans aucune machine.
Mais moi je veux le métier de l'atelier d'Inal.
Peintre textile.
Peintre textile, Céline, vous allez me pragmatiser tout ça.
Bah alors moi c'est un peu, vous savez, je suis toujours un petit peu dans les contraires. Bah, moi c'est une histoire d'amour en fait, donc... Je ne sais pas. Alors apparemment, il semblerait que ce soit mettre de la couleur, de mettre de l'or, de travailler sur des velours, des satins, du bois, du plastique et que sais-je encore. Je ne sais pas. Moi, c'est la compréhension, c'est l'envie de faire plaisir, enfin, d'arriver à unir un désir de l'autre, une envie, et qu'à un moment donné, cette envie devienne réalité, c'est ça. Il s'avère que c'est à travers la couleur. On travaille le bois, on travaille le métal.
Le liège, j'ai vu.
Le liège,
le cuir.
Le cuir.
On le brûle, on le tord, on l'essore.
C'est une exploration en permanence. Donc ce métier-là, c'est celui-là aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Peut-être qu'on va mettre un peu de sel, un peu de poivre, je ne sais pas.
Et Céline, vous, l'ennoblissement textile, il est entré dans votre vie à travers Alexandre ?
Oui.
Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux d'abord ?
Alors, on s'est rencontrés à Los Angeles. Je partais à Los Angeles, j'avais 16 ans, parce que ma sœur y était. Et la première personne qui m'a réceptionnée, c'était Alexandre, qui était donc un ami de ma sœur.
Welcome to America.
Et bon, voilà, et il y a eu un petit temps. Hein, de...
Petit.
Petit, oui. Et en fait, je suis restée là-bas. On est resté donc 2 ans à Los Angeles. Et ensuite, on est rentré à Paris.
Mais il y avait un atelier à Los Angeles ?
Il y avait un loft. Alexandre était censé
développer le marché américain
qui était déjà développé par ses parents, mais de faire quelque chose un petit peu différent. On a essayé un petit peu au niveau déco, mais voilà, c'était assez tranquille. Mais par contre, quand on est rentré en France, oui, on a créé une ligne femme sur la suite, toujours peinture sur soie, mais une peinture sur soie différente de ce que faisait sa mère. Sa mère faisait beaucoup de floraux, c'était très beau, et puis nous, on était rentrés dans les pièces d'avion, enfin le métal, avec des lignes assez différentes. Ça n'a pas marché parce que c'était pas spécialement le bon moment. Et puis aussi la mode changeait à cette période-là, et c'est vrai que c'était le début des créateurs. En fait, on a laissé, on est rentré dans l'événementiel. Moi, je m'occupais des costumes, de trouver des lieux. Donc, on a fait pas mal de temps dans l'événementiel.
Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir l'ennoblissement textile à vous, styliste modéliste ? Vous n'aviez pas fait ça encore ? De manipuler les couleurs, de manipuler la soie ?
Alors, manipuler les couleurs, je ne peux pas dire que ce soit quelque chose qui me passionne. Je n'ai pas comme Alexandre spécialement la passion des couleurs. Moi, je n'aime pas perdre de temps. il faut que les choses aillent vite. Donc, je vais prendre au hasard des choses, presque, enfin des peintures, des produits pour aller transformer la matière. En fait, ce que j'aime, c'est transformer la matière avec quelque chose, disons, de subtil, en laissant toujours une âme de ce qu'elle était avant. J'aime bien fausser les choses, donner l'illusion de quelque chose, comme si c'était complètement différent, tout en laissant l'histoire dans la matière. Donc, en
oui,
termes
mais
de
il y a
couleurs,
aussi cette notion de lutte et de soumission de l'un à l'autre.
C'est ce que je disais, le domptage.
Ouais,
voilà,
dompter la matière, mais qui ne se mate pas facilement. Et puis, il y a celle qui se révèle d'elle-même.
Mais c'est ça.
C'est une magie.
C'est dompter la matière. Et moi, souvent, quand je fais des échantillons ou quand je fais un travail, enfin, je peins, je suis toujours très absorbée et c'est toujours un échange, c'est de voir ce qu'elle donne, ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas, ce que moi je vais accepter, ce que je vais pas accepter. Donc c'est un espèce de petit combat comme ça, intérieur, enfin au moment où les choses se font, pour arriver à quelque chose, disons, d'harmonieux.
Et mais il y a eu une formation d'Alexandre à vous à un moment, ou pas vraiment ?
Alors,
vous avez deux chemins à côté l'un de l'autre.
Ça m'a beaucoup énervée, ça, parce que ça, je ne supporte pas. Donc, je suis patiente, oui. Que vous parliez de maître tout à l'heure, oui, en fait, Alexandre a été un maître dans le sens où il fallait que je le regarde. Je n'avais pas le droit de toucher, parce que je ne connaissais pas. Donc, ça, c'était à Los Angeles, quand il peignait. Donc, je passais des heures à le regarder et ça me démangeait de faire, parce qu'évidemment, j'avais l'impression que j'allais faire beaucoup mieux. Et j'avais pas tort.
Non, tu n'avais pas tort.
J'avais pas le droit parce qu'Alexandre me disait toujours « Non, non, tu ne sais pas ». Alors bon, à force d'observation, jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai commencé à faire un petit peu, mais tout en donnant l'illusion à Alexandre que je ne savais pas faire sans lui.
Malin.
Et voilà, non mais en fait, c'est un peu une blague. Mais
en fait, il fallait dompter Alexandre aussi.
Oui, voilà, c'est ça, il fallait dompter Alexandre. Non, on est dans un échange, Alexandre explique très bien très bien comment faire et je pense que j'ai aussi beaucoup observé.
Mais c'est vrai que nous n'avons pas du tout la même attitude. Mmh. Céline est très instinctive, c'est-à-dire qu'elle ressent les choses, elle est vraiment dans sa sensibilité personnelle et elle s'exprime directement avec des tentatives qui peuvent être techniquement complètement foireuses et finalement réussir à sortir un vrai jus. Moi, j'ai une approche
théorique,
carrée,
théorique.
Ça doit être comme
experte.
Ci, et c'est comme ça. Et puis de
experte,
toute manière,
ouais.
Moi, je prolonge tout, c'est-à-dire que si on l'a fait sur un petit bout, il faut réussir à le faire sur un grand morceau de tissu, et que donc, si on ne peut pas s'y prendre de cette manière, et c'est comme ci, c'est comme ça. Et Céline, elle, justement, m'apporte à un moment donné de la souplesse. Oui, elle me pragmatise, oui, c'est ça, tout à fait, exactement.
Ouais, je déteste la théorie, en fait. Dès que j'entends le mot théorie, ça me fait frémir. Je suis très instinctive. En fait, c'est presque, j'ai l'impression de couper mes neurones au moment où je vais faire quelque chose. Mmh. Je veux qu'il n'y ait aucune pensée, rien. J'ai une espèce de liberté. Et j'attends. Il y a quelque chose, je ne sais pas, quelque chose d'autre qui se passe. J'aime pas qu'il y ait de la réflexion dans ce que je suis en train de faire.
Alors, quand vous avez repris l'atelier d'Inal, vous avez eu un petit bout de route ensemble, puisque vous avez fait de l'événementiel, vous avez eu des projets entrepreneuriaux divers. Oui. C'était une évidence de reprendre cet atelier ?
C'était pas du tout évident. Disons qu'il y a eu des hauts et des bas dans la carrière de ma mère. Passé les 50 ans, il y a eu un vrai bas, c'est-à-dire que vraiment c'est descendu, l'activité s'est réduite et il fallait pour nous reprendre d'une manière ou d'une autre. Nous aussi, on avait besoin de gagner notre vie, donc nous avons fait l'effort de se rediriger vers la haute couture et d'aller proposer nos tissus à la haute couture. Et ça a été un immense effort. On avait la chance d'être porté à l'époque par l'existence de nombreuses maisons de couture. Je citais un nom qu'on oublie complètement, Ingaro par exemple. Mmh. Un nom qui est beaucoup plus célèbre, c'est Christian Lacroix. Il y avait plus d'une douzaine de maisons de couture présentes à Paris. Et il suffisait d'un coup de vélo, aller montrer nos petits bouts de tissu à gauche et à droite, pour obtenir des rebuffades et des rebuffades et des rebuffades, et puis tout d'un coup des ouvertures. Et c'est par là que petit à petit nous avons été amenés à explorer, c'est-à-dire que rien ne se passe facilement dans ce monde de la couture. Les exigences sont toujours au-delà de ce qu'on imagine. Et je vais prendre un exemple. Le premier travail que nous avons fait, c'était pour la maison Dior, et après les avoir visités, ils ont mis beaucoup de temps à nous rappeler, donc je les ai rappelés, je dis, vous n'avez pas de travail, ce que je vous avais montré, ça vous avait beaucoup plu. Dit non, mais peut-être la saison prochaine. Et ça n'a pas manqué. Le soir même, à 10h du soir, j'ai reçu un coup de téléphone. Ils avaient un magnifique tissu de la maison Rubelli qui était dans un beige et voulaient absolument que ce soit d'une couleur dorée. Dans la nuit, j'aurais soumis des essais de couleurs, ils ont choisi. Et nous avons commencé à peindre jusqu'à 8h du matin, comme des cinglés. On était vraiment des cinglés, ça, je peux vous le dire. Et livrés à partir de 9h30, 10h, et c'était très content de la couleur. Mais ce tissu Rubelli était un jacquard. Il avait une certaine main, une certaine rigidité. Il avait du relief et le tissu que j'ai livré était tout mou, tout plat. Et donc, ils ont rappelé le soir en disant « Mais ce tissu, on ne peut rien faire. Il faut... C'est pas le tissu qu'on t'a donné. » Et donc, j'ai dû apprendre au pied levé à retexturer ce tissu. C'est l'exemple type de ce qui se passe en couture. C'est-à-dire que le job, c'est ça, mais certaines conditions qui ne sont pas énoncées participe à la réalisation du projet. Et il faut tenter d'en connaître le plus pour réussir à livrer quelque chose qui satisfasse l'ensemble du besoin. Et pas seulement la petite zone précise sur laquelle on vous a demandé d'intervenir, qui en l'occurrence, dans ce cas-là, était la couleur. Et donc l'exploration a fait immédiatement partie des nécessités. On a dû explorer des produits, explorer des outils, réexplorer des techniques, au point qu'à un certain moment, on a cru inventer des techniques. Pour, en ouvrant certains livres, s'apercevoir que ces techniques étaient des techniques du XVIIe siècle ou du XVIIIe, et s'apercevoir que cette espèce d'empilement de plusieurs techniques qu'on faisait, là maintenant, on en trouvait une partie dans des catalogues de tissus des Lyonnais au XIXe siècle, et sur une gravure du Titien. Et on se dit, ah bah oui, c'est finalement, c'est ça. Et donc cette notion d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre aussi, ça compte énormément. C'est permanent dans notre métier, tourné vers la haute couture et maintenant vers la haute décoration. C'est cette humilité qu'on doit toujours porter, de savoir qu'on ne sait pas encore. Et chaque projet qui nous est donné, sur lequel on nous demande d'intervenir, c'est quand même une leçon de vie. Parce qu'il faut le prendre le plus simplement possible, avec tous les savoirs déjà accumulés. Et ces savoirs accumulés, comme je viens de le dire, sont bien antérieurs à nos naissances, plongent dans les siècles et même les millénaires, puisqu'on trouve des lambeaux textiles qui ont jusqu'à 30 000 ans. Et ces enchaînements de métiers, tous ces gens qui ont appris à extraire des fibres végétales et à les mouliner, ou des fibres animales, et à les associer pour faire des fils. Et derrière les moulineurs, il y a eu ces gens qui les ont tissés, et qu'ils ont tissés avec une inventivité extraordinaire, des possibilités de combinaison qui ne sont jamais, jamais finies. Et derrière nous qui allons les peindre encore avec d'autres combinaisons, qui allons éventuellement partiellement les détruire pour donner d'autres rendus, d'autres effets. Et c'est une magie. Moi, je le dis toujours, je suis tellement fier de cette espèce de faisceau de métier dans lequel nous entrons pour donner ces étoffes qui permettent de faire des vêtements ou des pièces de décoration, de mobilier. On participe à une rivière de savoir et de chance et de malchance.
Quand vous avez repris cet atelier, il n'allait pas bien. Vous avez tout réinventé, en réalité. Vous n'avez pas eu à investir pour créer un atelier comme parfois les artisans d'art ont à le faire. Peut-être que c'est ça qui a aidé.
Non. L'atelier était là, les couleurs étaient là. Les tissus, peut-être pas, puisque comme on travaillait pour les maisons de haute couture, forcément, c'était leur tissu, leur matière. Et ça, c'est important d'ailleurs, parce que même quand aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, on a évidemment une réserve avec des tissus, pour ne pas perdre de temps, on anticipe, on démarre, on demande, oui, c'est sur quelle matière un organza? D'accord, on commence à chercher, mais l'organza qu'on a dans notre réserve n'est certainement pas le même, surtout aujourd'hui avec les apprêts. Et quand on est dans des recherches couleurs ou dans des techniques assez précises, il faut travailler sur la matière dite. On a eu déjà des soucis comme ça. C'était Dior, où on travaillait du temps de Galliano, pas mal de métrages, de dégradés, les 50 mètres qui arrivaient, d'autres 50 mètres, changement de pièce, il se passait autre chose,
une autre réaction, la couleur
n'était pas tout à fait la même,
il fallait
une décoloration qui ne marchait pas, enfin...
Est-ce que ça s'est chevauché entre vos parents et vous? Il y a un moment où vous étiez à quatre?
Quasiment pas. C'est vrai que j'ai pas mal travaillé avec ma mère, mais de cette manière, elle a fini sa carrière et nous avons commencé cette route, il y a eu ce petit croisement, mais pas un réel chevauchement. Quand on dit l'atelier existait, c'est vrai, il y avait quelques tissus, il y avait des couleurs de différentes natures.
Et une réputation peut-être ?
Non, aucune, non.
D'accord.
Non.
Donc vous êtes reparti avec votre bâton ?
Oui, complètement.
Exactement,
oui.
Ouais. Ouais.
Mais en fait, l'investissement dans l'atelier est permanent. À tout moment, il faut se dire, tiens, on a besoin de tel outil, tel matériel.
J'ai vu, vous êtes très équipé.
Sans arrêt. Et explorer les nouveautés, par exemple. J'ai exploré les teintures naturelles. Je ne suis pas allé très très loin parce que ça ne convenait pas. En tout cas, ça ne peut pas convenir à la haute couture, à moins d'avoir une telle renommée que nous imposons le fait qu'un rouge peut ne pas être le même selon la récolte de garance de telle provenance ou de telle année. Ou qu'un bleu, un indigo du Vietnam ou un indigo du Sénégal, bah, ça ne donne pas le même bleu. On n'est pas au niveau d'exiger que Chanel ou...
Bien sûr, parce qu'ils ont besoin de continuité dans ce que vous leur livrez.
Une fiabilité.
Une fiabilité, oui.
Nous avons exploré des couleurs fantastiques qui se fixent au soleil, c'est-à-dire qu'on a une espèce de crème jaunâtre et puis tout d'un coup, avec les UV du soleil, un rouge profond va sortir. Mais la dose de rouge qu'on va mettre, on ne la connaît pas vraiment puisqu'on ne peut pas la voir. Donc c'est très très difficile de travailler ça. J'ai eu contact avec des gens extraordinaires qui sont en train de développer des teintures à base d'extraits de bactéries.
Ah là là, et quelle couleur ça donne ça ?
Mais pour l'instant, ils en sont limités au bleu. Pour l'instant,
d'accord,
ils ne sortent que du bleu. Mais ils ont l'immense espérance de pouvoir réduire l'impact de nos industries textiles et notamment les parties teintures et colorants en proposant ces produits, donc des teintures issues de bactéries, non plus des dérivés du pétrole, en sachant que c'est une industrie qui est extrêmement polluante dans le monde. Et donc j'avais l'idée de pouvoir poursuivre une exploration avec eux, et puis on n'arrive pas à se joindre, on n'arrive pas à... Bon,
mais ça fait partie de vos rêves.
Oui, ça fait partie de mes rêves de faire cette exploration. Tout est sujet à utilisation et à détournement. Parce qu'un simple peigne à cheveux, ça peut être un outil extraordinaire. Hein. D'ailleurs, les gens qui font le papier reliure, vous savez, c'est avec des peignes à cheveux qu'ils mélangent les couleurs et qu'ils obtiennent ces effets de caillouté extraordinaires. Donc c'est pour dire que tout outil est intéressant, tout produit peut... Un simple amidon, un morceau de sel, tout ça, ça peut participer à un effet grandiose.
Une oxydation de feuilles de cuivre avec une toile... pourri.
C'est vrai.
Oui,
c'est-à-dire que c'est la feuille, concrètement, c'est la feuille de cuivre, donc c'est une petite feuille d'un micron d'épaisseur qu'on vient poser sur une poêle et on fait cuire.
Ouais.
Et là, et ça fait sortir des couleurs vertes.
Vert, c'est plutôt dans les bruns.
Dans les bruns verts,
vraiment des belles couleurs de bronze. Mais c'est cette poêle-là qui fait cette couleur-là. L'autre poêle fait une couleur un peu différente.
On avait des batteries de poêle, dont une qui devait être jetée, et elle n'a jamais été jetée, parce qu'on a dit, ah non, celle-ci, il ne faut surtout pas la jeter.
Elle fait les meilleures oxydations.
À donner telle oxydation. Mais en fait, on s'est aperçu que quand on a déménagé et qu'on est venu ici...
Donc ici, on est avant.
Avant, vous voyez, dans notre grand atelier, c'est que de l'électrique que nous avons. Nous n'avons pas de gaz. Et en fait, l'oxydation, outre la poêle, vieille poêle, mais ça fonctionnait aussi parce que nous étions sur le gaz.
Oui.
On découvre toute cette chimie-là.
Avec des émissions de CO2 qu'on n'avait pas prévues, qui participent à l'oxydation.
Oui, c'est
alors qu'à l'électricité, il n'y a pas ces émissions de CO2, donc ce n'est pas la même oxydation.
Alors, on disait tout à l'heure qu'à l'époque, quand vous êtes relancé, il y avait une quinzaine de maisons de couture à Paris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a moins ? Il y a combien de maisons de couture aujourd'hui à Paris ?
Aujourd'hui, je crois qu'en parisienne, il n'y a que... 8 maisons de couture, si je ne me trompe pas. Quand je dis 8 maisons de couture, c'est...
Principalement.
On peut les nommer.
Chanel.
Voilà, nommons-les comme ça.
Dior, Givenchy.
Voilà, les trois majeurs.
Voilà, les trois majeurs, maintenant.
Ensuite, nous avons quand même Jean-Paul Gaultier. Nous avons son élève Alexandre Vautier.
Ouais.
Nous avons la maison Rabbi Kairouz, bien que lui soit libanais, c'est quand même une maison de couture parisienne. Nous avons aussi la maison... Comment s'appellent ceux qui sont...
Stéphane Rollin.
Voilà, absolument.
Ça a diminué de moitié.
Ah oui.
Donc votre marché a diminué de moitié.
Ça a diminué de moitié, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait des majeurs qui ont disparu. Christian Lacroix était un couturier majeur.
Ouais, qui faisait beaucoup travailler les ateliers d'art.
Énormément. Ingaro était un couturier majeur qui faisait beaucoup travailler l'ensemble des artisans.
Jean-Louis Scherrer, Balmain, enfin...
Beaucoup
de maisons ont disparu. Moi, je me souviens quand on a démarré... J'étais toute jeune, je créais quelques échantillons et puis voilà, un mois avant les collections, j'appelais chaque maison. Il y en avait plein de petits, mais je sais pas, j'avais au moins 15-20 rendez-vous. Et c'est vrai que c'était assez plaisant parce que finalement, en termes de création, si ça plaisait pas à l'un, l'autre allait apprécier. Enfin, il n'y avait pas ce côté d'être, de se sentir un petit peu. C'est vrai que non,
jamais gagné quand même.
C'était jamais gagné, mais il y avait toujours un regard, enfin une maison. Apprécier un échantillon, l'autre en apprécier un autre. Donc c'est vrai que ça donnait quelque chose de très différent. Tout à l'heure, je vous parlais justement de la difficulté qu'il y a de séduire ces directeurs artistiques qui en voient tellement. Ça va très très vite aujourd'hui, tout va très vite à tous les niveaux. On attend toujours l'exceptionnel. Alors je peux vous dire qu'en termes de création, c'est pas évident de sortir l'exceptionnel.
Je pense qu'il faut qu'on explique à nos auditeurs cette façon de fonctionner qu'ont les ateliers qui travaillent pour la haute couture. C'est que vous produisez énormément d'échantillons que vous soumettez au studio, et ensuite dans ces échantillons, les studios vont dire je veux un peu de ça, un peu de ça, un mélange de ça, mais tout le travail de recherche d'échantillonnage, il vous incombe, et c'est un travail qui est jamais valorisé dans le prix auquel vous allez vendre les pièces.
Ah, bien sûr
ensuite
que non. Bien sûr
jamais
que non.
C'est impossible.
C'est ça qui est difficile.
Parce ça constitue un patrimoine. Ouais. Chez nous, ça devient un patrimoine. C'est-à-dire que derrière, notre bibliothèque d'échantillons est immense. On parle de milliers d'échantillons. Et là-dedans, certaines personnes peuvent venir ultérieurement piocher et dire « Tiens, oui, oui, je voudrais... » On nous achète de temps en temps des droits à reproduction ou carrément des échantillons.
C'est très rare.
Mais aussi rare. Parce qu'on ne fait aucun effort pour aller dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que la recherche nous incombe toujours, qu'elle soit de notre propre chef, comme nous le faisons au préalable de chaque collection, ou que ce soit parce qu'on nous convoque et on nous dit on aimerait quelque chose qui soit dans cet esprit-là. On aimerait obtenir ce rendu. Voilà cette étoffe, est-ce que vous pourriez, à partir de cette étoffe, faire quelque chose ?
Ce qu'on pourrait appeler un brief.
Oui, c'est ça.
Ensuite, exactement. Vous allez faire une étude, une recherche qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas facturée.
Oui.
Il arrive qu'il n'y ait rien qui soit déclenché derrière.
Il arrive beaucoup plus souvent que rien ne se déclenche. Voilà. Oui, 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 bien sûr.
Et il demande à plusieurs ateliers de faire le même travail.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'on est parfois en concurrence, oui, une sorte de concurrence.
Donc ça, c'est difficile.
Mais il n'y a pas beaucoup d'ateliers comme le nôtre aussi.
Non, c'est vrai, évidemment. La haute couture, pour moi, c'est des timings insensés. Une notion du temps complètement insensée. Comment ça s'explique, ça ? Pourquoi même à l'époque, vous disiez un mois avant les collections, j'allais montrer les échantillons ? Pourquoi on ne s'organise pas plus ?
C'est
l'ère du temps qu'il faut suivre ?
Non, c'est la mode. La mode, c'est, et je ne me souviens plus le nom de ce roi de France qui avait un seigneur à sa cour, qui un jour est arrivé avec une chemise qui n'était pas la sienne, probablement celle d'une rencontre heureuse de la nuit précédente, et il avait un bout de dentelle qui dépassait de la manche de son habit. Et tout le monde était scandalisé, quelle façon de se présenter devant le roi, ah, cette façon est déplorable, cette façon fashion, hein, vous voyez le synonyme. Et donc le roi a trouvé que mais j'aimerais bien m'habiller à la mode de monsieur, comme la mode est fondée à partir de là. Et donc là, très vite, toute la cour s'est mise à voir la dentelle qui dépassait de la manche.
Ouais.
C'était la mode.
En fait,
il
faut réagir
de mode,
à la
très
réalité.
Ouais. C'est très, très rapide. L'ère du temps,
ouais, je comprends.
L'ère du temps qu'on doit anticiper, parce que quand même fabriquer une collection, ça prend un certain temps, ça coûte un certain montant, même beaucoup d'argent, mais on l'anticipe, mais très, très court. Il arrive même que certains couturiers, certains créateurs fassent une collection et tout le monde est très content, elle est achevée et on met tout à la poubelle. Il reste 7 jours, autrement dit 7 fois 24 heures, ce qui est plenty of time comme disait John Galliano, et on refait une collection
vraiment
à 100%.
Ouais. 7 fois 24 heures.
Oui, à 100%. Oh, ça peut arriver. Alors évidemment, on parle de
certaines
manières inconsidérées qu'ont les directeurs artistiques d'appuyer sur tout le monde, de coûter cher, etc. etc. Mais tout d'un coup, ce directeur artistique, cette directrice artistique a la sensation que non, on colle pas à la mode, on colle pas à cet esprit de nouveauté qu'on veut obtenir. Mmh. Et à partir de là, on recommence. C'est pour ça que la mode va très 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 vite, qu'on a des timings absolument insensés, qu'on peut être appelé un soir à 10h du soir, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour livrer le lendemain matin. Parce que,
et ça, ça vous arrive régulièrement.
Disons que maintenant, on a un petit peu moins l'âge de passer les nuits blanches, mais
c'est
si
ça.
Le coup, on le fera,
ouais.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Non, mais c'est ce qui explique ces délais qui sont très courts, parce que c'est vrai qu'il y a encore certaines maisons aujourd'hui, quand ils viennent nous voir 2 mois avant ou 2 mois et demi avant, pour démarrer la collection, on est très étonnés. C'est la collection, quelle collection ?
Ça vous paraît long ?
Ah ben on est très étonnés, on dit comment ça c'est... Ah non, c'est très très bien, non mais là justement on voudrait être en avance. C'est jamais très bon signe en fait. Et la plupart
ça risque
du temps,
de changer.
Quand on commence en avance, donc ça fait effectivement ce travail de recherche, même si c'est à la demande, on recherche, on met au point. Et la plupart du temps, quand ça a commencé trop tôt, c'est parce qu'il va y avoir un changement et beaucoup de choses tombent, voire sont complètement revisitées.
Et il faut tout refaire.
Et on repart à autre chose. on fait partie du deuxième round de la collection ou pas. Vous ouais. voyez, donc en
ah
fait,
oui. et on peut
quand,
se faire
quand on arrive, et donc finalement, ces collections se font quasiment, enfin, en trois semaines.
C'est trois impressionnant. Semaines. Et vous, vous êtes à peu près au milieu en termes de process.
Oui, on est au milieu.
Après, il faut monter les pièces.
Parfois au début, si, parce que souvent, derrière, vous voyez là, on a du plissage, souvent il y a les brodeurs. Mm. Donc on, maintenant, on
les brodeurs, ils
de
sont
voir.
Avant ou après vous?
Les brodeurs
le plus
sont après.
Après.
D'accord.
Après.
En fait, le pire, c'est les derniers, forcément.
Les couturières oui. des maisons de couture.
Ouais, c'est ah, elles sont les couturières, oui.
Oui. Elle, ah oui, elle, oui. Ah ben oui, je peux raconter l'histoire d'un défilé pour une très très grande maison. Ce défilé-là, c'était un thème indien et le défilé était à 14h. Donc nous, on a commencé à livrer à 00h30, autrement dit, il restait 13h30. Et on a fini de livrer les morceaux pour ce manteau aux alentours de 11h30 du matin. Les ateliers en font les miracles. Si on regarde les ourlets, on ne trouve pas ça très miraculeux, mais tout au moins au défilé, c'était miraculeux.
Oui, bien sûr. Et vous avez quelle relation avec les ateliers? Vous les connaissez?
Pour la plupart, oui, bien sûr.
Pour la plupart,
on a
ceux qui travaillent.
Hein. Une relation d'entente, c'est-à-dire que nous sommes main dans la main. On essaie de comprendre. C'est très important dans nos métiers d'avoir une notion de l'amont, comment le tissu est fait, comment il a été préparé. Pour mieux pratiquer notre intervention, mais il faut le pratiquer aussi dans le sens de la couture. On ne va pas servir un morceau de tissu que la couturière va passer trois quarts d'heure, une demi-journée à comprendre comment l'utiliser. Nous, on doit lui préparer le terrain de manière à ce qu'elle puisse intervenir aussi rapidement et aussi parfaitement que nécessaire.
Et c'est là où, Céline, votre expertise styliste-modélisme doit être utile aussi, c'est que vous savez exactement le chemin qu'il va faire ce tissu-là.
Oui, absolument. La plupart du temps, oui, je vais dans les ateliers pour voir avec les premières d'atelier ou les personnes qui vont travailler sur le modèle, pour savoir comment elles vont travailler, comment nous on travaille, arriver à expliquer et à donner les directives ensemble avec l'atelier pour que ça se passe bien et vite.
Et j'ai vu sur votre compte Instagram, donc Atelier Dinal, que vous citiez les maisons pour lesquelles vous travaillez. Alors évidemment, une fois que le défilé est passé, mais c'est bien, vous avez le droit de faire ça? Elle vous autorise?
Alors ça, c'est une question. Alors, on se pose la question régulièrement. Et finalement, est-ce qu'on a le droit? Ben, je pense qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit. Donc, tant que ce que l'on montre ou ce que l'on dit est tout à fait va dans le bon sens, je pense que... Maintenant, on n'a pas eu de mauvais retours.
Personne ne vous a jamais
retouché. Vous touchez du doigt quelque chose qui est extrêmement sensible.
Je sais.
C'est terrifiant.
Parlons-en quand même.
Bah, parlons-en. Par exemple, comment se fait-il que la décision de laisser prononcer le mot, ensuite de laisser paraître une photo déjà parue dans la presse, ensuite de mentionner publiquement que telle maison, tel modèle, telle actrice passant sur un tapis rouge, etc., nous soit interdit alors que nous avons participé à cette élaboration, le produit qui est vu, une partie est due à nos mains, eh ben, c'est terriblement frustrant de savoir que quelqu'un dans un département juridique d'une grande maison qui emploie plusieurs dizaines de juristes et emploie plusieurs centaines de personnes à travers le monde pour veiller au privilège de sa communication, ce juriste dise « Ah ben non !» Parce que le plus simple pour lui, c'est de dire non, parce que s'il faut étudier le cas, il faut qu'il y passe du temps, et que finalement, ben non, 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 vous ne pouvez pas communiquer sur ce que vous avez pour nous. Si une autre maison vous laisse faire, tant pis pour eux. Personnellement, c'est outrancier, il faudrait que quelque chose soit fait pour nous permettre de le faire.
Oui, enfin, excuse-moi, tu dis, c'est absolument, c'est outrancier, c'est vrai que c'est, parfois, on est triste de ça, mais... Voilà, on utilise le nom, jusqu'à présent on n'a jamais eu de soucis, parce que je pense que s'il y a quelque chose d'honnête, enfin, mais les maisons jamais ne nous ont dit, mais on fait attention à ça.
C'est un sujet très sensible.
C'est un sujet sensible, c'est vrai que...
Et c'est vrai que nous, en tout cas, à notre échelle, à l'échelle du podcast, hein, tout simplement, c'est important pour nous de poser cette question, juste pour éveiller les gens à cette problématique, parce que quelle autre façon un atelier comme le vôtre, qui travaille à façon, a de se faire connaître, que de pouvoir raconter son travail.
Écoutez, il y a une chose, en fait, on a souvent parlé de nos métiers comme les métiers des coulisses, enfin, on est dans la coulisse.
Oui.
Les grands noms sont eux qui sont mis en avant,
qui portent la griffe,
et donc... Tout le reste des gens qui travaillent, et pourtant il y a beaucoup de monde, c'est comme un film, hein, sauf que le film, tout le monde est cité.
Au générique.
C'est vrai que dans le générique, tout le monde est cité, c'est vrai que dans un défilé, seul le maquilleur, maquillage, coiffure, et éventuellement chaussures.
Et la musique.
Et la musique. C'est comme ça, ça fait partie des règles du jeu, vous voyez. Donc moi, je me souviens quand j'étais jeune et quand nous avons démarré, j'ai été très touchée qu'on soit invitée au défilé de haute couture. Parce que j'avais ce sentiment que c'était pas ma place. Enfin, je vois pas pourquoi, parce que j'ai toujours cru que c'était les clientes qui étaient invitées au défilé. Donc je me suis sentie, waouh, vraiment, être invitée comme une cliente, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc j'y allais en toute humilité, toute petite. Et puis, au fur et à mesure, les défilés sont devenus de vrais shows, de place to be, surtout ne pas manquer. Et puis quand, tout d'un coup, on n'était plus vraiment invité et qu'on nous disait « Ah ben non, vous comprenez, cette année, c'est difficile. Vous savez, on n'invite pas tout le monde. » Et quand j'apprends que l'ami, enfin, qui n'a rien à voir, du copain, de machin, de truc, y allait et... Je me suis dit, là, ça ne va plus. Et c'est vrai que là, c'est décevant. Notre place, quelle est-elle? Parce que finalement, c'est vrai qu'on apprend aussi énormément en voyant
qu'on les a pièces
fait
portées.
De notre travail, enfin,
bien
porté,
sûr.
Parce
bien
que
sûr.
C'est quand même, on fait un travail qui parfois représente 80% du modèle, parfois moins, selon. Mais c'est important de comprendre le monde. Enfin, le directeur artistique a été dans quelque chose. Et quand on le voit sur scène, on se dit, ah, ça donne
bien
ça.
Bien sûr, et on le comprend mieux pour la prochaine fois.
On le comprend mieux pour la prochaine fois.
Bien sûr.
Ça, c'est une obligation. Oui, aller dans les défilés, moi je sais que c'est très important, c'est d'avoir ce tableau fini et ça m'émeut de voir cet aboutissement. Mais c'est ce travail justement en commun et surtout avec quelqu'un qui visionne quelque chose et justement des morceaux, parce que nous ce sont des morceaux pour arriver à créer une robe, c'est pas un seul morceau, c'est pas un morceau fini. Il y a, quelqu'un l'a pensé. Alors parfois c'est nous qui l'avons pensé, mais souvent on a été surpris.
Nous avons participé.
On a été surpris de choses qui sont demandées et de voir une finition. Et là on dit, mais c'est extraordinaire. C'est là où on est très fiers, hein, parce que le rendu est vraiment beau, et à la fois se dire, ah ouais, mais jamais j'aurais évité de faire ça.
Mais nous sommes fiers aussi du travail des autres. Hein. C'est vrai que quand on voit une pièce sur un défilé, on se rend compte de l'apport que chacun a fait. Tu vois, imagine qu'on n'ait pas le tissu du dessus et que tout d'un coup on voit une doublure complètement brodée comme Valentino avait fait une fois. Ou quand on voit ce rajout de plumes hyper travaillé, ou ces broderies qui sont rapportées, etc. Tu vois, nous, on est fiers de notre participation à un ensemble commun. Les robes de haute couture, ce sont des œuvres d'art, hein. Mais c'est des œuvres d'art très collectives, où une maison va signer, va mettre sa griffe. Dans ce cadre-là, on est fiers de nous tous.
Il y a eu une fois, c'est vrai qu'il y a eu
ça
une
marche
fois chez Christian Lacroix, en fait, comme d'habitude, j'appelais, bon ben bah, voilà, des petits échantillons. Et à l'époque, donc la fille qui était l'intermédiaire, j'ai dit, bah écoute, j'ai des velours dévorés. Ah non, monsieur Lacroix, ah non, le velours dévoré, c'était terminé. Bon, c'est pas grave, j'ai d'autres choses, d'accord, viens demain. Et alors, le lendemain, j'y vais et je me dis, bon, velours dévoré, apparemment, ça ne passe pas. Et donc j'arrive et je commence à sortir des échantillons et je lui dis, bah, ça, c'est une chose exceptionnelle, ça s'est jamais vu, c'est une dentelle de velours. Et là, elle dépose tout, elle va vite chercher Monsieur Lacroix vient, il regarde, ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc comme quoi, il y a des mots, il y a des mots tabous,
surtout
des mots à ne plus prononcer à certains moments, parce que c'est la mode. Et résultat, donc tout de suite, il a dessiné une robe.
Non, le soir même, il y a un mannequin qui était couvert de photocopies de dentelle.
De dentelle.
Voilà,
donc
il a fallu
étudier, parce que c'était particulier, c'était effectivement du velours, et là on était déjà très... C'est nous qui avons lancé d'ailleurs, la lingerie... Ça a été repris.
Dentelle de velours.
Mais dentelle de velours. Donc on a travaillé tout ça. Mais là, je l'ai là-haut. C'était dans un magazine. C'était pas Elle ou je ne sais plus quel magazine à l'époque. Il y a marqué Solstice. 500 heures de travail. C'était pas Solstice, c'était nous.
Mmh. Solstice, c'est un fameux dentelier.
Dentelier. Alors c'est vrai que M. Lacroix avait positionné sur son mannequin plein de dentelles.
Pour inspirer.
D'inspiration, parce que forcément, on démarrait de dentelle, on n'a pas créé la dentelle, mais on a dû nous retranscrire en termes de traits,
de graphisme,
pour que ça marche avec nos techniques, avec le dévorage, avec tout ça, pour arriver à faire un truc qui n'était plus qu'un bout de chiffon qui se mettait dans un sac à main comme ça, mais effectivement, avec 500 heures de travail. Mais c'est marrant, c'était Solstice là qui...
Qui a remporté la chandelle.
Mais je sais que l'Institut National des Métiers d'Art, donc qui a changé de nom, c'est l'Agence Française pour les Métiers d'Excellence et du Patrimoine, donc le nouveau nom de l'INMA, travaille sur un texte sur la signature en fait des métiers d'art, qui est une loi qui passe pour permettre aux artisans d'art de signer leur travail au même titre que tous les participants d'un film sont cités dans le générique. Donc il y a des gens qui travaillent sur ce sujet-là et on les encourage et on va suivre ça de près et raconter un peu ce qui se passe.
Mais c'est merveilleux d'entendre ça, et donc on espère aussi. Mais aujourd'hui, je découvre que les artisans d'art, oui, on a besoin, bien sûr qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'exister, qu'on a besoin de savoir que les choses ne sortent pas du chapeau du magicien comme ça. C'est souvent ce que les gens imaginent d'ailleurs, même parfois dans les maisons de haute couture, surtout avec des gens comme nous qui travaillons jour et nuit pour coûte que coûte sortir les choses.
Et vous faites quoi comme chiffre d'affaires aujourd'hui ?
À peu près 1 million.
D'accord. Donc ça va ?
C'est très très bien. Mais ce chiffre d'affaires vient de deux branches, la branche de la mode et la branche de la décoration.
Oui, c'est intéressant, c'est quelque chose que vous développez.
Et nous avons eu la chance de commencer à travailler dans la décoration il y a quelques années. Ce marché est important pour nous parce que justement il y a un peu plus de respiration. Parfois trop. Par exemple, je mets en comparaison ces urgences d'une robe pour demain et ce chantier pour une ville lointaine du Moyen-Orient où on a commencé à être contracté il y a bientôt 5 ans.
Mais ceci dit, c'est très difficile ça, justement. Et précisément,
c'est,
parce
c'est
que par
aussi
habitude,
difficile.
La haute couture étant tout le temps dans l'urgence, la crédibilité du marché déco, quand on nous dit dans 1 an, dans 2 ans, moi je me perds là-dedans. C'est pas assez rapide, vous voyez, un peu.
Et là non plus, les études ne sont pas rémunérées ? Ce serait une recherche.
Il faut se battre pour obtenir qu'il y ait un minimum de financement de l'étude et de la recherche. Mais ce n'est pas très, très facile. Ce n'est vraiment pas facile de faire comprendre. Parce qu'au bout du compte, il y a toujours un client final. Ce client final, lui, il met en concurrence différentes agences. Chacune de ces agences va mettre en concurrence différentes sous-agences qui vont elles-mêmes mettre en concurrence différents artisans. C'est un peu comme ça que ça se passe.
Oui, mais les agences, elles font financer leur temps d'études.
Oui.
Il n'y a que les artisans qui ne le font pas.
Exactement, c'est ça. D'ailleurs, nous, en bout de chaîne, ceux qui font, souvent, c'est très difficile d'obtenir, d'avoir un petit véhicule pour compenser ce temps de recherche.
Ne serait-ce que les achats matières, voilà.
Et les matières.
Exactement, au minimum. On a plein de révolutions à faire, hein, vous avez vu.
Absolument. De là à descendre dans la rue, c'est encore autre chose.
Non, on ne descend pas dans la rue, on descend dans la rue, dans les oreilles des gens. Là, déjà,
oui,
c'est pas mal. Travaillez pour la haute couture et vous avez lancé une collection, vous lancez votre marque autour de la décoration d'intérieur. Il y a une différence dans votre pratique sur ces deux domaines ?
Alors, à la fois oui et à la fois non. Non, puisqu'on est toujours dans justement ce domptage de matière. La seule chose qui soit agréable, c'est la différence entre la couture et la déco, c'est-à-dire que les impératifs ne sont pas les mêmes. Pour la couture, il faut rester souple, il faut que le produit, enfin ce que l'on va mettre sur le textile tiennent autant que possible au nettoyage à sec. En décoration, on tombe dans d'autres problématiques qui sont d'un type d'usure si on est au sol, de frottement si on est sur un siège, de la lumière. Donc on a d'autres problématiques. Alors c'est vrai que quand on a commencé à travailler dans la déco, je me suis dit « Ah super, on va pas avoir ces problématiques ». Donc on en a découvert d'autres. Mais finalement, en termes de création, l'exigence est la même.
Non, il y a encore une différence, Céline.
Ah bon ?
Oui, parce que globalement, si nous travaillons pour une pièce vestimentaire dans la mode, nous avons les moyens de nous renseigner en amont, bien sûr, mais surtout en aval, comment la pièce sera traitée. Nous avons le plus souvent un retour d'information de la manière dont le vêtement sera monté, assemblé, et ça nous donne la possibilité d'imaginer une manière de travailler en correspondance avec le produit final. Et les gens qui nous donnent des informations dans la mode sont des gens dont on comprend le langage. En décoration, on regarde quand on reçoit des plans architecturaux dessinés avec ce fameux logiciel de 3 dimensions et que nous ne comprenons pas grand-chose, les gens en face ne savent pas nous donner les réponses que nous attendons pour la manière dont on doit traiter ou préparer les pièces que nous livrerons, ne serait-ce que ce panneau mural. Là, est-ce qu'il devra être tendu tout contre la cloison ou est-ce qu'il y aura un espace intermédiaire pour, par exemple,
une
isolation sonore où on a du mal à obtenir des informations que nous sachions lire. C'est vrai que dans les métiers de la décoration, il y a une bien moins grande synergie entre les métiers les métiers de la mode. D'autant plus que, je le rappelle, comme nous sommes 100% manuels, de l'autre côté, en décoration très très peu de gens connaissent le travail manuel, très peu. Tout passe par la machine, donc les indications qui nous sont données sont des indications qui sont liées à des langages machines que nous ne maîtrisons absolument pas. On voit très très bien que ces plans en 3D, il y a des signes, des coches, des machins, et c'est un langage qui nous échappe. C'est vrai que les synergies des métiers dans la mode sont très fortes, mais vraiment très fortes. On fait très attention les uns aux autres.
La haute couture, c'est quand même une famille, on se connaît. Il y a un langage qui est quand même connu des uns des autres, même si c'est nouveau avec tel artisan, mais on est dans ce même moule. Dans la déco, qui est quelque chose de beaucoup plus nouveau pour nous, c'est vrai que c'est différent. Et là, on est loin du client et des gens qui sont loin aussi de notre travail. Comme dit Alexandre, l'habitude de vraiment savoir ce que c'est que travailler vraiment à la main, les mains, voilà, que les mains. C'est vrai qu'il y a des difficultés, oui.
Nous intervenons pour faire des panneaux décoratifs et des œuvres d'art dans un grand bateau, un yacht. Autant la propriétaire du yacht est venue à l'atelier et a voulu notre travail, reconnu notre travail, et je crois a été enchantée, puisqu'il s'agit d'une commande extrêmement importante pour nous, un gros chiffre d'affaires. Autant le designer qui avait sélectionné nos savoir-faire, nos propositions, a bien compris la manière dont on travaillait, autant les gens qui vont faire l'agencement et qui vont participer à l'installation au niveau du chantier naval sont loin de nous et ne comprennent absolument pas. Je donne un petit exemple et je dis, n'oubliez pas, nous sommes des peintres, nous n'avons pas de matériel lourd pour débarquer des pièces. Et l'autre jour, on reçoit un colis de 200 kilos. Un colis de 200 kilos, mais vous imaginez, et donc on a dû tout démonter dans le camion pour pouvoir sortir les pièces du camion. Vous voyez, ça, c'est l'exemple typique du manque de synergie. Bien que nous, de notre côté, on leur a signalé sans arrêt que c'était plutôt comme ci et plutôt comme ça, qu'on avait des impératifs, des obligations, qu'on allait faire comme ci et comme ça. Et eux, en face, ils sont tellement habitués à ce que ce soit du travail industriel, même si c'est de l'artisanat, mais de l'artisanat de type industriel avec des outils de manutention que nous n'avons absolument pas.
Je pense que nous sommes des dinosaures.
Oui, nous sommes des dinosaures, tu as raison.
Des jolis dinosaures. Alors j'ai rencontré Olympe, votre fille qui travaille avec vous. C'est donc l'histoire continue ?
Absolument, c'est oui. La même histoire. Olympe a vécu non pas dans cet atelier, mais dans un appartement au-dessus de l'atelier qu'elle traversait tous les jours, matin, midi et soir,
en car l'école,
c'était ouais. La porte à côté. La pauvre, elle devait ouvrir la porte, veiller à ce que personne ne passe dans la rue pour pouvoir sortir de l'atelier et aller dans l'école 5 mètres plus loin. Et donc, elle a grandi dans cette ambiance. Elle connaît notre métier de l'intérieur, ses obligations.
Et les rythmes, elle les a vécues de près parce qu'évidemment, on se demande, comme en plus vous êtes un couple, comment vous gérez avec votre vie familiale des rythmes pareils ? Comment
c'est
vous faisiez quand
l'appartement étant dans l'atelier
Pardon,
l'appartement était juste au-dessus avec des interphones, donc c'était très pratique.
Ah oui, donc on pouvait laisser les enfants dormir.
Un bisou au lit, interphone. C'est vrai que c'était très très bien parce qu'on avait l'impression nous de les voir. Alors je sais que elles en ont quand même souffert, elles.
Ouais.
Parce qu'on se voyait, mais jamais disponible.
Ouais, c'était tout le temps absorbé par quelque chose.
Tout le temps. C'est vrai que c'est le métier qui prend quand même le dessus.
Et il y en a combien des filles ?
Deux.
La cadette, elle a dit, votre métier, non. Non, je ne veux pas le faire.
Qu'est-ce qu'elle va faire alors ?
Elle a 23 ans, on verra bien.
Mais c'est une satisfaction quand son enfant reprend un atelier ou c'est une crainte ? Enfin, elle ne reprend pas, hein, vous travaillez ensemble, mais...
Bah, c'est les deux, parce que...
Ouais, c'est les deux.
C'est d'abord de la fierté, vraiment, de pouvoir transmettre quelque chose, c'est... une énorme fierté, d'autant plus que l'ayant reçu, le transmettre, c'est important. Maintenant, c'est vrai que c'est des métiers et passions.
Bien sûr.
Donc,
on ne peut pas imposer un sacerdoce à quelqu'un.
Non, c'est très difficile.
Bon, mais en même temps, c'est le fait justement de... C'est l'héritage. Enfin, nous, on a hérité de ta mère. On en a donné vraiment autre chose. C'était de la peinture sur soie. Mmh. C'était une ligne, d'ailleurs, que sa grand-mère avait... mis au point, donc une ligne très élégante et très simple. Tout était très, très bien calculé pour peindre sur les soies. Et nous, on n'en a repris que le côté laboratoire, que la peinture, qu'on a complètement explosé d'une autre manière. Donc c'est ça qui est aussi curieux. Olympe, je sais, dans sa manière de voir les choses, je sens cette jeunesse qui appartient au monde de maintenant et de demain. Non pas que nous soyons déjà des vieux, ne comprenant rien, mais on sent qu'il y a un mouvement, une dynamique qui n'est pas la même que celle dans laquelle on est. Et c'est vrai que de pouvoir le partager pour comprendre et voir ce vers quoi ça va aller après.
Mais ça, c'est un profil magique, complémentaire qui est très utile dans un atelier. Ouais. Elle ne vient pas de l'atelier elle-même.
Non, elle ne
met pas la main à la pâte, Olympe.
Elle sait tout faire, elle n'a pas une grande maîtrise de chacun des gestes, mais aucun geste ne lui est étranger.
D'accord,
je
comprends.
Elle les a toujours vus, et toutes les nouveautés qui apparaissent tout le temps dans l'atelier, elle les suit.
D'accord.
Bien sûr.
Oui, elle a un langage technique
mais
parfait.
Elle a peut-être le bagage qui manquait aux simples artisans, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser à la manière dont on aborde des marchés, à la manière dont on communique.
Dont on suit à tout l'aspect commercial qui est difficile à tenir quand on crée.
Commercial et aussi la communication. C'est vrai que, pour tout dire, moi j'étais anti-communication. Fondamentalement, je suis encore. En fait, pour moi, Internet, avoir un site Internet, c'est une trahison.
Par rapport au client ? Parce qu'il faut être discret ?
Par rapport au client, par rapport à nous-mêmes, par rapport, on n'a pas à faire de la réclame.
Si on fait du bon travail, les clients viennent.
Exactement, on n'a pas à faire de la réclame.
C'est vrai que travaillant pour la haute couture, finalement, les maisons nous connaissent. Donc même si elles nous oublient, elles nous connaissent.
Oui, parce que ça change les équipes, ça change beaucoup.
Les équipes
c'est
changent,
aussi un des sujets compliqués, non ?
Oui, ça aussi, c'est compliqué. Enfin, finalement, c'est un petit monde. Hein. Le nom se retrouve toujours.
Oui, c'est vrai.
Souvent, on est rappelé, on dit « Ah, mais j'étais dans telle maison, vous vous souvenez ? Ah oui, je me souviens. » Donc les gens rappellent. C'est vrai que je partage l'idée d'Alexandre, c'est qu'on n'avait pas besoin de se montrer. Or, le monde, aujourd'hui, s'accélère vraiment. On est dans un système qui fonctionne autrement. On est trop fragile. Fragile, je pense, pour échapper à cette obligation de se montrer. Alors, se montrer, ça veut forcément dire... Enfin, il va falloir montrer quelque chose.
Mais vous avez créé une marque, Céline Alexandre.
Oui, on a créé une marque. Bon, remarquez, la première fois qu'on l'a créée, que j'ai dit à Alexandre, on va aller à New York. Si on va à New York, moi, j'y vais pas pour des vacances. J'y vais que si on a fait quelque chose. Donc, j'ai dit, très bien. Donc, un mois et demi, j'ai créé les tapis. Donc, c'est Olympe qui m'a dit, maman, il faut faire en grand les tapis. D'accord, on les fait. On a tout fait, les photos, les plaquettes, la création, tout. En un mois et demi, c'était fait. J'ai dit, OK, on est prêt pour aller à New York. Donc, j'avais pris des rendez-vous. Michael de l'Homme Charme m'avait donné des noms. On allait, voilà, quelques rendez-vous à New York, ce qui permettait enfin de se déplacer, de voir New York que je n'avais pas vu. Et quand il y a eu rendez-vous, donc il n'y avait pas de prix. Hein. J'ai dit, ben non, mais on n'est pas là pour vendre, on vient juste vous montrer. Les gens étaient un peu étonnés.
Et voilà. C'est pas très américain, ça.
Ah non, c'est pas très américain, mais en même temps, oui, je pense que ça a retenu leur attention.
Ah bah ça, c'était marquant, oui. Je ne viens pas pour vendre, je viens juste.
Mais justement, vous travaillez un peu à l'étranger ? Parce que vous avez une façon de fonctionner tellement proche des studios, c'est-à-dire que c'est un contact physique hein, pour travailler dans la nuit, pour livrer le lendemain matin. Moi, dans les métiers d'art que je connais, qui sont moins ceux de la couture, il y a parfois 90% du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Vous, c'est l'inverse. Vous faites essentiellement en France votre chiffre d'affaires, non ?
Ce n'est pas vrai. Avec la décoration, on a un chiffre d'affaires à l'étranger qui est maintenant à peu près prépondérant. On est à peu près à 50%
d'accord.
À l'exploitation, 50% en France.
Est-ce que les maisons internationales ont le même timing ? C'est-à-dire très court.
Oui, bien sûr.
C'est pareil partout. Oui, c'est vraiment cette histoire d'air du temps.
Oui.
Il n'y a pas une culture française d'aller dans l'extrême.
Si, absolument. Il y a une culture française d'aller dans l'extrême. Et les Italiens sont aussi forts que nous dans ce sens-là.
D'accord.
Les Américains, eux, avaient tenté d'imposer la notion de trop travailler, c'est mal travailler. Et puis, ils ont eu de plus en plus de Français qui sont intervenus chez les designers américains et qui ont fait sentir que le jus, c'était aussi un jus qui a plus tendu. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut le prendre quand ça sort, il faut presser encore plus fort pour que le jus soit meilleur. Et donc, les Américains aussi se mettent aussi
délicieux, cette image.
Les Anglais le savent un peu, et les Allemands résistent. Les quelques Allemands avec qui nous sommes, on a essayé de résister. Mais finalement, au bout du compte, la dernière semaine, c'est la dernière semaine.
Ça reste comme ça.
Voilà, donc il y a une ligne blanche, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est vrai que c'est très, très différent comme esprit des autres métiers. On va dire des arts plastiques, des arts appliqués, de nos métiers d'art, où la notion de temps est très, étendu. Et parfois, c'est les finalités qu'on ne voit pas. Mmh. Nous, on a la finalité juste devant nous.
Oui, c'est vrai.
Et donc, c'est parfois nos modalités qui peuvent pêcher. C'est-à-dire qu'il nous arrive, comme le manteau que je citais tout à l'heure, qui était peut-être cousu avec des épingles à nourrice. Donc, les modalités parfois se flanchent, hein, mais la finalité est respectée. Et souvent, je pense que quand les projets sont à trop long terme, les modalités vont être parfaites. Mais comme on a perdu un petit peu la finalité, on peut ne pas mettre autant de jus que nous mettons dans le métier. Je ne dis pas de mal des autres
non,
métiers.
Non, mais c'est intéressant aussi de voir l'aspect positif de ça.
Ce citron pressé de toutes les forces et en toute urgence.
C'est l'essence de la créativité d'une certaine manière.
Voilà, c'est un sacré jus. Hein,
vraiment, c'est intéressant.
C'est fort, c'est puissant. Et là où c'est très intéressant, c'est que c'est beaucoup de citrons qui sont pressés en même temps pour faire un seul jus qui est ce défilé.
Ouais.
Donc il y aura les brodeurs, il y aura l'épaisseur, il y aura tous les gens qui interviennent pour faire des chapeaux, pour faire des perruques, pour faire des plumes, pour faire des souliers, pour faire des ceintures, pour faire des bijoux, pour faire des ornements. Tous ces gens-là, c'est 500, 600, 700, 800 personnes à Paris peut-être, qui vont mettre toute leur force, toute leur énergie, tout leur savoir et toute la chance possible, parce qu'il faut aussi capter la chance pour sortir ce jus-là. Et puis, on va repartir trois semaines plus tard, on recommence. C'est quand même très intéressant. C'est un processus créatif qui fait que, et je vais donner un exemple, beaucoup de nos confrères, qu'ils soient peintres ou brodeurs, passent en transfuge dans le monde de interior design. Mm. Et là, quand ils arrivent, ils disent « Ah ouais, on va secouer tout ça, tu vas voir. » Parce que c'est vrai que dans nos milieux, on a une telle intensité que quand on l'apporte à d'autres milieux, ça secoue un petit peu. Mm. C'est vraiment, on est un peu rock'n'roll quand même dans notre esprit. Mm. Alors parfois, effectivement, ça peut être au détriment des modalités. Ça peut être au détriment d'une hyper-perfection que dans certains métiers, par exemple pour la bijouterie, pour tout ce qui est joaillerie, orfèvrerie, il y a des choses qui doivent être plus posées pour être absolument parfaites. Le poli d'une argenterie, le sertissage d'une pierre, tout ça demande peut-être plus des modalités plus accomplies, peut-être.
Ouais, c'est intéressant d'amener ce jus-là dans d'autres territoires. C'est ce que vous faites avec la décoration.
C'est exactement ça qu'on essaie de faire.
Alors, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ?
Une fée des métiers d'art ? Qu'est-ce qu'elle
fait ? Mais moi, j'ai deux points de vue. Qu'elle nous permette d'exister avec notre nom, ça, c'est très important. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la manière dont nous sommes un petit peu au-delà de conserver dans l'ombre, mais interdit d'exposer, ou interdit de se montrer, ou interdit de montrer.
La signature.
Et puis l'autre chose, c'est la compréhension de nos métiers, qui est un peu particulière, qui fait qu'on aurait besoin d'aide au niveau administratif. Je vais donner un petit exemple. Nous travaillons exclusivement en B2B, business to business, c'est-à-dire que nous facturons à des entreprises, et je ne vois pas pourquoi on pratique encore la TVA.
Mmh. C'est vrai, ça faciliterait la vie de tout le monde, ça, oui, tout à fait.
Un petit allègement administratif qui ne change rien, mais qui, pour nous, serait beaucoup plus...
Oui, bien sûr.
Ouais. Par exemple, voilà.
Oui, très bien.
Moi, j'ai une fée, eh bien, je demanderais la notion de reconnaissance, en fait. Pas se sentir abandonné, en fait. Ouais. Dans le non-abandon, c'est quoi ? C'est d'être soutenu. Pour mon côté, j'ai besoin de cette reconnaissance pour pouvoir avancer. Donc, c'est l'image.
J'ai encore autre chose à demander.
Ah, mais c'est bien.
On a droit à trois vœux. Hein.
J'ai pas dit trois, mais Alexandre est un bon négociateur.
Génie, trois.
Alors, c'est la chose à laquelle, en principe, un artisan ne pense jamais. C'est la solidarité entre nous tous les autres, en sachant que nous sommes déjà tous des parano à la base, parce que ma technique, c'est ma technique.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et je veux pas que les gens la connaissent, et je veux pas en parler, et je cache tout, et tous mes documents, etc. Donc cette parano de l'artisan, elle est intrinsèque, de toute manière, on a chacun nos petits secrets. À force de se sentir tout seul, nous ne nous entraidons pas, nous sommes faibles.
Bien sûr, il faut être unis et soudés pour être puissants. C'est sûr.
Ouais. Chacun dans sa technicité pourrait faire quelque chose d'exceptionnel en étant ensemble. Donc il nous manque
un fédérateur.
Ouais. Ouais. Ça va beaucoup plaire à ma fée, ça.
Ah oui. Mais on a vraiment besoin de ça. Ouais.
Merci Céline et Alexandre.
Merci Raphaël.
Métiers rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.